Alors, voilà, c'est parti. Alors, Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo
Namo
Bhagavate
Vasudevaya.
Srila Prabhupada ki jai.
Jai.
Hari Haribol.
Jai.
Hari
Alors, aujourd'hui, on continue la lecture qu'on avait commencée la dernière fois dans l'étude de l'Upadeshamrita Mantra 1. On est dans le 16e module, le point 16.3. Et le chapitre s'intitule « Les impulsions des organes génitaux ». Alors, un sujet intéressant pour ceux qui pensent que c'est intéressant. Voilà. Alors, Virginie, voudrais-tu lire?
Oui,
16.3.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
16.3. Voilà ce qu'on entend par acte sexuel licite en accord avec les principes de la religion. La Bhagavad Gita 7.11 se lit comme suit. Balam Balavatam Chaham Kamaraga Vivarjitam Dharma Viludo Bhuteshu Kamu Smi Bharata Shyab. Balam, la force, Balavatam, du fort, Cha-e, Aham, je suis, Kama, de passion, Raga, et d'attachement, Vivarjitam, exempt, Dharma, Aviruddha, qui ne va pas contre les principes religieux, Bhuteshu, de tous les êtres, Kamara, la vie sexuelle, Asmi, je suis, Bharata, Rishba, ô Seigneur des Bharata. Je suis la force du fort, exempte de passion et de désir. Je suis, ô Seigneur des Bharata, Arjuna, l'union charnelle qui n'enfreint pas les principes de la religion. Teneur et portée. La force du fort doit servir à protéger les faibles et non à agresser autrui par intérêt personnel. Quant à la vie sexuelle, conformément aux principes religieux dharma, elle ne doit pas avoir d'autre objet que la procréation d'enfants dont les parents devront assurer le développement de la conscience spirituelle, la conscience de Krishna.
Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? C'est clair. Alors, on va continuer.
16.4. Mais autrement, il s'efforcera par toutes sortes de moyens de satisfaire les exigences de ses organes génitaux, parfois sans retenue aucune. Dans un mode de vie contraire aux règles du dharma, le vent des passions subites peut commencer son tourbillon infernal, gagnant de plus en plus de puissance. Tout se passe dans le mental d'abord. Les pensées impures, les pensées illicites à vrai dire, les fantasmes en termes déguisés, et ensuite suivent les actes illicites, seuls ou avec d'autres. En fait, c'est l'enfer d'être continuellement sujet à pareille frénésie de tentation. C'est l'enfer d'avoir un mental bourré de sollicitations illicites. Mais le pauvre ignorant pense qu'il jouit tandis que c'est tout le contraire qui se passe, sans compter les conséquences de ces actes illicites qui lui arriveront tout autant en pleine gueule. Le pauvre n'est pas sorti de l'auberge. Il est semblable, comme on dit en québécois, à un diable dans l'eau bénite. Comment s'en sortir? Où trouver refuge pour être débarrassé du flot de pensées impures et leurs séquelles? Le soulagement tangible est une
Le
prise
seul,
entière.
le seul.
Le seul, pardon, le seul soulagement tangible est une prise entière de conscience de Krishna. Cette prise de conscience est répandue aux quatre vents par un pur dévot de Krishna et ses serviteurs qui l'assistent dans cette mission. En dehors de ça, ce sont les assauts répétés d'un mental pervers dominateur qui en veut toujours plus. Telle est la punition pour un manque de conscience de Dieu. Ce ne sont pas des plaisanteries ce qu'on dit ici. C'est la réalité de l'existence de pensées impures qui hantent les âmes conditionnées. Personne n'en fait de cas en public parce que tout le monde se trouve dans le même bateau. Tous sont conquis par les chaînes dorées du sexe opposé. Le bal continue depuis des temps immémoriaux. Le sexe est le plaisir prédominant de la vie matérielle. La publicité exploite à fond cette attirance pour le sexe, ce qui n'est rien pour améliorer la situation en société. Ça peut certes être bon pour faire des profits, mais ce sera toujours à court de calmer les esprits ainsi harcelés de mille et une façons inimaginables. Les pubs promettent le ciel, mais les sots n'y récoltent que la pollution de leur mental. 16.5. Si l'être se livre à des activités sexuelles illicites, soit par la pensée ou en faisant le projet ou l'objet de conversation, en accomplissant l'acte lui-même ou en stimulant les organes génitaux par des moyens artificiels, le voilà aussitôt sous l'emprise de l'illusion Maya. On trouve dans la teneur et portée de la Bhagavad Gita telle qu'elle est, 6.13.14, une citation d'un écrit du sage Yajnavalkya. On ne peut s'adonner quotidiennement au plaisir charnel, chez soi ou ailleurs, puis se métamorphoser en yogi grâce à quelques cours du soir. Il faut apprendre à dominer son mental et s'abstenir de tout plaisir des sens, dont le plus fort est le plaisir sexuel. Dans son code du célibat, le grand sage Yajnavalkya disait « Karmana manasha vacha sarvastasyu sarvada sarvata meituna tyago brahmacharyam prachakshyate. » Faire vœu de brahmacharya doit nous aider à effacer complètement la sexualité de nos actes, de nos paroles et de nos pensées, à tout moment, en toutes circonstances et en tout lieu. Nous reproduisons le texte complet de la Bhagavad Gita 6.13-14. Samam kiya siro grivam darayan achalam stira sampreshkya nashikagram svam disas chanavallokyam prashantatma vigatabir brahmachari vrate shtita mana samyamya makshito yukta ashyatamat para. Samam droit, kiya le corps, shira la tête, grivam le cou, darayan tenant, achalam immobile, stira ferme, sampreshkya regardant, nashika nez, agram le bout, svam de son propre, disha de tous les côtés, cha aussi, anavalokyan ne regardant pas, prashanta sans agitation, atma le mental, vigatabi sans peur, brahmachari vrate ayant fait le vœu de continence, stita situé, mana le mental, samyamya dominant complètement, mat sur moi Krishna, chitta concentrant le mental, yukta le vrai yogi, ashita doit s'asseoir, mat moi para le but ultime. Il lui faut garder le corps, le cou et la tête bien droits, le regard fixé sur l'extrémité du nez. Affranchi de la peur et ferme dans le vœu de continence, le mental apaisé et maîtrisé, il doit méditer sur moi en son cœur et faire de moi le but ultime de son existence. Le but de la vie est de connaître Krishna, qui, en tant que Paramatma, la forme à quatre bras de Vishnu, vit dans le cœur de chaque être. La pratique du yoga n'a d'autre but que de nous mettre en présence de cette Vishnu-murti, cette forme de l'émanation plénière de Krishna localisée dans le cœur de chacun. Autrement, le yoga n'est qu'une parodie du vrai yoga, une pure perte de temps. Krishna est en soi le but ultime de l'existence et la Vishnu-murti, le Paramatma, l'objet du yoga. Pour l'atteindre, il faut s'abstenir de tout rapport sexuel. Il s'avère donc nécessaire de quitter son foyer pour vivre en un lieu solitaire et méditer dans la posture que décrit le verset. On ne peut s'adonner quotidiennement au plaisir charnel, chez soi ou ailleurs, puis se métamorphoser en yogi grâce à quelques cours du soir. Il faut apprendre à dominer son mental et s'abstenir de tout plaisir des sens, dont le plus fort est le plaisir sexuel. Dans son code du célibat, le grand sage Yajnavalkya disait « Karmana manasa vacha sarvavashtashu sarvada sarvatra meituna tyago brahmacharyam prachati » Faire vœu de brahmacharya doit nous aider à effacer complètement la sexualité de nos actes, de nos paroles et de nos pensées, à tout moment, en toutes circonstances et en tout lieu. Nul ne peut pratiquer correctement et efficacement le yoga s'il se livre au plaisir sexuel. Aussi doit-on être éduqué dans le brahmacharya dès l'enfance, quand on ne sait rien encore de la vie sexuelle. Dès l'âge de 5 ans, les enfants sont envoyés au Gurukula, l'école du maître spirituel, pour y suivre la stricte discipline du brahmacharya, sans laquelle on ne peut progresser sur la voie du yoga. Qu'il s'agisse du dhyana, du jnana ou de la bhakti, on appelle également brahmachari l'homme marié qui observe les normes védiques de la vie conjugale. L'homme qui n'a de rapport sexuel qu'avec sa propre femme et selon certaines règles. L'école du Bhakti Yoga acceptera ce chef de famille, Brahmachari, mais pas celle du Yajna ou ni celle du Dhyana, qui exige la continence totale et n'accepte aucun compromis. Le Bhakti Yoga autorise une vie sexuelle restreinte, car la puissance du service de dévotion offert au Seigneur est telle qu'elle fait perdre naturellement toute attraction pour les plaisirs de la chair. La Bhagavad Gita 2.59 ne nous dit-elle pas Vishaya vinavartatante nira arashya deina rasa varjam rasopi asya param vrisva nirvatate. Alors que d'autres spiritualistes doivent faire d'immenses efforts pour se détacher de tout plaisir matériel, le dévot du Seigneur, parce qu'il est le seul à goûter quelque chose de supérieur, s'en détache automatiquement. On ne peut être affranchi de toute crainte, vigatavi, que si l'on est pleinement conscient de Krishna. La crainte est inhérente à l'être conditionné en raison de sa mémoire dénaturée, de son oubli, de la relation éternelle qui l'unit à Krishna. Aussi, le Bhagavatam 11.2.37 enseigne-t-il Bayam dvitya biniveshata siad ishad apetya apetashya vipariyayo smriti. La conscience de Krishna est le seul moyen d'échapper à la crainte. Le dévot de Krishna peut donc atteindre la perfection de la pratique du yoga. Il est en effet le plus élevé de tous les yogis, puisqu'il a déjà atteint le but ultime du yoga, qui est de voir le Seigneur à l'intérieur de soi. Les principes du yoga mentionnés ici sont donc bien différents de ceux des clubs de yoga actuels.
Jai, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Ouf. Merci, hein? Ça a été long.
Ouais, c'est toujours le sanskrit qui est difficile, parce que bon, ça permet de s'améliorer, hein?
Oui, c'est sûr.
Mais non, c'est très complet en fait. Tout est dit.
Oui. Alors, on peut voir Om Gyana Timirandasya Gananjana Sadakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Nama Shri Prabhupada Ki Jai. Alors, on peut voir que c'est deux mondes complètement différents. La conscience de Krishna d'un côté, qui est pratiquement la lumière, et l'autre, c'est l'ignorance, le Maya, l'ignorance, l'obscurité, et les gens dans cette obscurité, à moins d'avoir la miséricorde d'un pur dévot de Krishna, ils n'y voient que du feu. Il n'y a pas d'espoir. D'un point de vue de dévot, les dévots les regardent aller et puis, waouh, ça vaut pas cher la tonne, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme littérature? Ils ont les journaux à tous les jours. Ils ont les nouvelles de tous les jours. Ils ont la télé de tous les jours. Et comme divertissement, ben, ils ont des films. Et les films, ça tourne pour que ça soit intéressant, toujours autour du même sujet. L'attirance des deux sexes, dans une forme ou une autre. Des fois, c'est très explicite. D'autres fois, ça semble moins, mais c'est basé là-dessus. Alors ça, c'est la vie matérielle. Et la vie spirituelle, ça veut dire avoir un autre goût complètement différent. Et comment on peut expliquer ça? Quelle est la base? Si quelqu'un veut échapper à l'emprise de la vie sexuelle, quelle est la base?
De s'identifier à l'âme éternelle qu'on est.
Exactement.
L'âme n'a pas besoin de la vie sexuelle. C'est le corps.
Oui, mais aussi être conscient de Krishna, parce que tu peux t'identifier à une âme. Mais ça, en fait, c'est être rattaché à Krishna, s'abandonner à Krishna, être conscient de Krishna. Sans ça, il n'y a pas le niveau de conscience, pour moi, à mon sens, hein, nécessaire à pouvoir, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent qu'ils sont des âmes, oui, mais ça les empêche pas de profiter, entre guillemets, des plaisirs de la vie, comme ils savent bien le dire, en fait, comme c'est tout le temps dit.
Ouais. Les impersonnalistes sont bons là-dedans.
Mm-hmm.
Et les sahajiya, vous savez c'est quoi les sahajiya? Qu'est-ce que ça veut dire? Sahajiya, ça veut dire quelqu'un qui prend les choses à la légère et qui, pour lui, tout est, il n'y a rien vraiment d'important. Alors, les sahajiya, par exemple, en Inde, sont très intéressés à la danse rasa de Krishna. Mais ils sont intéressés d'une façon pervertie, c'est qu'ils veulent être comme Krishna. Alors, si Krishna a dansé avec les gopis pour profiter des gopis, en fait, Krishna profitait pas des gopis, mais ça, c'est une façon de voir. Alors, eux autres veulent faire la même chose. Alors, ils vont avoir des relations sexuelles avec des femmes. Puis, voilà. Alors, mais la vie spirituelle, c'est pas ça du tout. Ça, c'est agir dans cette mentalité-là, ça constitue une grande offense à Krishna. Essayer d'imiter Krishna dans cette façon-là. Alors, ça, c'est les sahajiya. Les sahajiya peuvent se permettre n'importe quoi, surtout dans les relations illicites avec les femmes. Et voilà. Alors, la base, quel est le point principal à la base si on veut justement être libéré de cet ensorcellement qu'est la vie sexuelle? Là, on a dit qu'il faut savoir qu'on est une âme spirituelle. Ça, c'est correct. Qu'on a une relation avec Krishna. Ça, c'est correct. Et quoi d'autre?
savoir c'est quoi notre but comme le dharma sur cette terre.
Ouais, mais ça, c'est, ça, on peut dire que c'est un petit peu secondaire. Pas que c'est pas important, mais il y a un principe, il y a un point qui est plus important encore.
Vous donner d'autres explications pour voir un autre angle de la question.
Ben, l'angle, c'est que c'est Krishna. Alors, si on connaît Krishna, normalement, on devrait être attiré par Krishna. Si on connaît Krishna. Alors, si on connaît Krishna, on connaît aussi notre propre position. C'est qu'on est très insignifiant. On est une parcelle de Krishna. On n'est pas Krishna. On est juste une partie, une parcelle de Krishna. Notre position, c'est de servir le tout complet qu'est Krishna. Mais ça, c'est de la théorie, c'est de la philosophie, et c'est correct. Mais ce qui va venir vraiment nous chercher et nous interpeller, c'est d'entendre parler des divertissements de Krishna avec les gopis, avec Srimati Radharani. Et ça, c'est expliqué dans le Chaitanya Charitamrita. Il y a un chapitre, justement, qui est assez éloquent à ce sujet-là. Et c'est le Seigneur Chaitanya qui en parle. C'est dans le Antalila, chapitre, une minute, chapitre 18 ou 19. C'est vers la fin. Alors, à ce moment-là, on se rend compte que ouais, les plaisirs sensoriels, c'est de la petite bière à côté de ce que Krishna peut avoir comme plaisir. Et en fait, on est dans le monde matériel, on veut imiter Krishna. Alors on tombe dans ce panneau des plaisirs sexuels qui sont là, mais qui en fait on ne devrait pas tomber dedans si on est vraiment conscient de Krishna. Est-ce que c'est clair? Alors, c'est ça. Alors, comme Prabhupada dit, dans le livre de Krishna, Prabhupada dit, si on étudie et on entend parler de la danse rasa de Krishna, la maladie de la concupiscence va s'atténuer. Ça va se réduire. Alors, parce que ça nous montre justement, il y a beaucoup mieux, et le beaucoup mieux ne peut pas faire abstraction de Krishna. Ça prend Krishna, mais Krishna n'est jamais seul, comme Prabhupada dit. Il est toujours entouré. Soyez les garçons vachés, soyez les vaches, soyez les gopis, et parmi les gopis, la gopi qui est la principale et la plus chère à Krishna, c'est
Radharani.
Radharani. Alors, Radharani a un grand amour pour Krishna et elle est insurpassable à ce chapitre-là. Et ça, ben, quand on s'intéresse à écouter les divertissements de Radha et Krishna, et tout ce qui a trait à Krishna, ben, l'attrait pour les choses inférieures, ben, s'atténue et finit par, justement, disparaître. Alors, cependant, il y a des recommandations parce que cet avancement spirituel-là, il n'y arrive pas du jour au lendemain. Et comme on vient de lire aujourd'hui, c'est le grand sage Yajnavalkya qui lui a écrit sur le célibat, le brahmacharya, et lui, il y a une règle qui c'est vraiment juste quatre petites lignes qu'on a vues à la page 152 Yajnavalkya qui dit, là on lit la traduction, faire vœu de brahmacharya doit nous aider à effacer complètement la sexualité de nos actes, de nos paroles et de nos pensées, à tout moment, en toutes circonstances et en tout lieu. Alors, comme ça a été dit plus loin, justement, les règles de brahmacharya, ça aide justement à passer à travers ce qui est très les attirances de la vie matérielle. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que Yajnavalkya qui a contribué, c'est pas écrit aujourd'hui dans le texte, qui a contribué à, disons, en ce qui concerne les hommes spécifiquement, à devenir plus sage que simplement voir le sexe opposé d'une autre façon, d'une façon justement qui est pas la meilleure, mais d'une autre façon qui est la juste façon. Alors, ce sage-là s'appelait Chanakya Pandit. Alors, Chanakya Pandit, c'est un sage qui a enseigné justement qu'un homme qui est sage, un homme qui est en connaissance, voit toutes les femmes, mis à part sa mère, je veux dire, mis à part son épouse, excusez-moi. Il les voit toutes comme des mères. Et Prabhupada explique que peu importe l'âge en ce qui concerne ce principe-là, même si c'est une petite fille, une jeune fille, elle doit être considérée comme une mère aussi. Alors, un homme qui se met ça dans le coco et qui est capable justement de penser qu'il y a une façon de voir les femmes, c'est de les considérer comme des mères. Alors, comment est-ce qu'il peut penser après de l'autre façon qui est de ne pas les considérer comme des mères? Et dans le sens contraire, pour les femmes, c'est le contraire. Dans le sens de voir tous les hommes, mais comme des pères. Pita. Pita veut dire père. Et mère en sanskrit, c'est mata. C'est pourquoi dans les écrits védiques, quand les hommes s'adressent à des femmes et qu'elles ne sont pas leur épouse nécessairement, alors ils les appellent Mataji, mère. Et les hommes peuvent être appelés par les femmes Pitaji, c'est-à-dire père. Et ça calme les esprits de tout le monde. Alors, autrement, ben, c'est les tentations, et puis succomber à la tentation, et puis voilà. Alors, l'histoire humaine est pleine d'histoires, justement, d'hommes ou de femmes qui tombent pour l'un ou pour l'autre. Et puis, c'est la vie, ça, dans le monde matériel. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, il y avait une concubine des planètes édéniques qui était venue voir Arjuna. Et Arjuna s'est adressé à elle comme sa mère, comme une mère, et il n'est pas tombé dans le panneau. Et qui d'autre est tombé dans le panneau? Le Seigneur Shiva et son épouse. Attends une minute. Non, c'est pas ça. En tout cas, il y a une autre histoire. Alors, ils ont, non, c'est Vishwamitra, c'est ça, un grand yogi. Et il y a une concubine qui est venue, disons, l'agiter. Et il a eu une fille, Sakuntala. Voilà. Alors,
Adjamila aussi, non?
pardon?
Adjamila aussi, non?
Oui, Adjamila, c'est un bon exemple. Très bon exemple. Lui, il l'a vu. Et ça l'a déboussolé parce qu'il était, il faisait il était, disons, un brahmana, faisait comment on peut dire, les actions, les activités d'un brahmana. Il était très bon là-dedans. Quand on lit le Srimad Bhagavatam, il était à un niveau élevé à Jamil. Mais juste en regardant un couple soudra s'embrasser, ça l'a déboussolé. Il est tombé de ses... En fait, il s'est amouraché de la femme qu'il a vue. Il a perdu sa vie, sa culture brahmanique. Il l'a pas perdu à 100%, mais disons qu'il ne pratiquait plus. Jusqu'au moment de sa mort, quand la mort est arrivée, ah là, il s'est souvenu, il a voulu appeler son jeune fils, le plus jeune, qui s'appelait Narayan. Et en prononçant le nom de Narayan, là, il s'est rappelé du vrai Narayan. Et c'est ça qui l'a sauvé. Alors, la conscience de Krishna, c'est fort. C'est très fort. C'est plus exalté que n'importe quoi au niveau matériel, la conscience de Krishna. Alors, c'est normal que quelqu'un qui s'intéresse à la conscience de Krishna, il va perdre le goût pour les plaisirs matériels. C'est normal. Et c'est voulu aussi. Alors, Krishna, il regarde qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de ses dévots. Et il fait en sorte que les dévots deviennent conscients. Et si jamais il y a des faiblesses en quelque part, Krishna va leur faire prendre conscience que telle ou telle faiblesse, c'est inacceptable et il faut se corriger. Alors, tout ça pour arriver à avoir un mental, pleinement fixé sur Krishna. Et le meilleur moment pour avoir un mental fixé sur Krishna, c'est quand?
Ben, je dirais le matin, mais en même temps, c'est tout le temps.
Tout le
Tout le
temps,
temps.
ouais.
Oui, le meilleur moment, le moment le plus important.
Quand on est
Ah, au moment de la mort.
éveillé.
Attends.
Ah, oui, la mort, ça aussi.
C'est ça, au moment de la mort. Alors, il faut pratiquer à avoir son mental fixé sur Krishna pendant toute une vie pour qu'au moment de la mort, ça soit, disons, le réflexe naturel de penser à Krishna avec la pureté qui s'impose aussi. On peut pas être double jeu avec Krishna. Faut vraiment être très sincère, très honnête et très pur pour penser à Krishna tout le temps. Et Krishna, lui, il est pur, il est l'infiniment pur, et si quelqu'un pense à lui, il se purifie, et Krishna en est bien heureux, et le dévot en devient très heureux aussi. Alors, c'est la vie spirituelle, la conscience de Krishna, c'est le goût supérieur. Alors, Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 59, on l'a lu tantôt. Vishaya vinivartante niraharasya deinaha. C'est la page 154, là. Rasavardham rasopi asya paramdrishtva nivartate. Alors, ce verset-là, on va le regarder, chapitre 2, verset 59. 259, 104, 55, 59. Alors, la traduction. Même si elle restreint ses jouissances sensorielles, l'âme incarnée conserve un attrait pour les objets des sens. Toutefois, qu'elle goûte quelque chose de supérieur et elle mettra fin à ses vains plaisirs, la conscience fixée au niveau spirituel. Alors, tenez à portée de Srila Prabhupada, à moins d'être situé à un niveau transcendantal, il est impossible de se détourner du plaisir des sens. Le fait de restreindre ses sens, en observant diverses règles, est comparable au fait pour un malade de s'abstenir de manger certains aliments. Le patient n'aime pas ces restrictions et ne perd pas pour autant le goût des aliments défendus. Aussi, la contrainte des sens par une pratique spirituelle comme l'Ashtanga Yoga est-elle recommandée aux gens de moindre intelligence qui ne connaissent pas de meilleures méthodes? Mais celui qui, en progressant dans la conscience de Krishna, a goûté la beauté du Seigneur suprême Krishna, n'éprouve plus le moindre attrait pour les choses matérielles. Ces restrictions ne s'imposent donc qu'aux néophytes dans la voie spirituelle et n'ont de valeur que pour ceux qui n'ont pas encore pris goût à la conscience de Krishna. Quand on a véritablement atteint cette conscience de Krishna, on perd automatiquement tout attrait pour les plaisirs matériels, désormais fades et ternes. Voilà, c'est ça la conscience de Krishna. C'est avoir un goût supérieur et pratiquer, pratiquer, pratiquer jusqu'à temps qu'on devienne des purs dévots de Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK. Alors, on va continuer. Alors, oups. Ici, 16.6. Alors, Ananda, voudrais-tu lire, s'il vous plaît?
Oui, avec plaisir, avec Krishna.
Hare Krishna.
16.6. Ces enseignements, tels que les définissent les Écritures révélées, ne sont pas destinés aux seuls chefs de famille, grihastha, mais aussi aux tyagis, ceux qui ont embrassé l'ordre du renoncement. À cet égard, Sri Jagananda Pandita écrit dans le 7e chapitre de son livre Prema Vivarta: Vairagi Bai Gramya Katana Sunibe Kane, Gramya Vartana Kaibe Yabe Milibe Ane, Svapane Ona Karabai Stri Sambasyana Nya, Grie Stri Shadiya Bai Asiya Chavana, Yadi Sha Pranaya Rakite Gorangera Sane, Chotya Aridasera Kata Takeye Namane, Balana Kaibe Arabarana Paribe, Ri Dayete Radha Krishna Sarvade Sevibe. Ô mon frère, tu as pris l'ordre du renoncement et ne dois donc prêter l'oreille à nul propos matériel ni débattre des choses temporelles. Ne pense pas aux femmes, ne serait-ce qu'en rêve, car tu as embrassé l'ordre du renoncement et prononcé le vœu qui t'interdit tout rapport avec elle. Aspirant à vivre en compagnie de Chaitanya Mahaprabhu, tu dois toujours garder souvenir de l'histoire de Chota Haridasa, de la manière dont le Seigneur l'a banni de sa présence. Ne te nourris pas de mets savoureux, ni ne te couvre de somptueux vêtements. Reste toujours humble et sers leur grâce, Sri Radha Krishna, du plus profond de ton cœur. Srila Prabhupada écrit dans la Bhagavad Gita 3.4 que personne ne devrait prendre l'ordre du renoncement à moins que son cœur ne soit purifié. Nous en avons la preuve et la raison ci-haut. Voici ce qu'écrit Srila Prabhupada. Une fois purifié par l'accomplissement des devoirs prescrits, qui n'ont d'autre but que de permettre aux matérialistes de nettoyer leur cœur, on peut accéder à l'ordre du renoncement. Sans s'être graduellement purifié, il est impossible d'atteindre la perfection de l'existence en adoptant brusquement le quatrième ordre de la vie humaine, le sannyasa. La voie du renoncement exige une maîtrise entière des sens par un engagement entier, corps et âme, dans la conscience de Krishna. La voie est très stricte en termes des attentes de comportement et de pensée. Elle est l'antithèse du matérialisme grossier et subtil. C'est la pureté de conscience qui pèse tout à fait lourd dans la balance. Âme faible, s'abstenir. Le processus de préparation au sannyasa est indiqué par Srila Prabhupada dans la teneur et portée. Sans s'être graduellement purifié, il est impossible d'atteindre la perfection de l'existence en adoptant brusquement le quatrième ordre de la vie humaine, le sannyasa. Le processus de purification est graduel, il prend du temps, et il faut être disposé à prendre le temps nécessaire pour se purifier avant de penser sérieusement au sannyasa. Comment savoir si l'on est vraiment prêt? La journée où l'on est prêt, on le sentira d'abord dans son cœur. La journée où l'on se sentira prêt à tout sacrifier pour Krishna, on sera prêt. En fait, c'est comme ça que tout dévot devrait se sentir, jour après jour. L'ordre du renoncement n'en est que la consécration ultime.
Wow. Il y a des questions, des commentaires. Alors, la conscience de Krishna, c'est très sérieux. Il n'y a pas de place vraiment pour la rigolade. Et en particulier pour ceux qui songent à embrasser l'ordre du renoncement, qu'on appelle ici dans le texte des tyagis. Le mot tyaga, ça veut dire renoncement. Renoncer à quelque chose. Alors, les tyagis, ça réfère aussi à ceux qui sont des sannyasis. Ça peut aussi référer aux yogis qui doivent s'abstenir de beaucoup de choses pour l'amour du yoga. Alors, comme par exemple, les yogis ne peuvent pas se permettre des plaisirs sensoriels. Comme c'est dit, ben, ça c'est mission impossible, là, genre. Il faut manger, il faut dormir, se reproduire, ça c'est à mettre à côté, complètement, pour ceux qui sont des yogis. Alors, comme on a lu aujourd'hui, dans la branche du dhyana et du jnana, il n'y a aucun compromis qui est permis quant à les relations sexuelles telles qu'on les conçoit dans le mariage. Alors, il n'y a pas de place pour ça. Alors, pour la voie du jnana et du dhyana, dhyana veut dire la méditation, ils exigent une continence totale et n'acceptent aucun compromis. Alors, dans l'âge de Kali, est-ce que c'est possible, ça? C'est possible dans la mesure où quelqu'un, disons, s'abandonne complètement à suivre les instructions du maître spirituel, parmi lesquelles il y a justement l'observance des quatre principes régulateurs, comme Prabhupada les a énoncés. Pas de sexe illicite. Alors ça, c'est comme Prabhupada dit, on ne dit pas de sexe, mais on dit à l'intérieur du mariage pour avoir des enfants. Il n'a pas dit zéro sexe, là. Mais dans ce cadre-là, le cadre est fixé. Alors, comme on a lu au début aujourd'hui, et le verset de la Bhagavad Gita qui, justement, jette la base pour la vie sexuelle, c'est Krishna lui-même qui le dit, et c'est dit ici, je suis au Seigneur des Bharata, Arjuna, l'union charnelle qui n'enfreint pas les principes de la religion. Comme Prabhupada dit, ce genre de relation sexuelle n'est pas différent de Krishna. C'est pour servir Krishna. Avoir des enfants conscients de Krishna avec une conscience adéquate, qui est une conscience de Krishna. À part de ça, c'est comme Prabhupada dit, c'est faire de la procréation comme les chiens et les chats. Pas vraiment de conscience spirituelle, plus qu'il faut là-dedans. Là. Alors, évidemment, ce genre d'affirmation est difficile à avaler pour beaucoup de monde. Mais par contre, ce que Krishna explique dans la Bhagavad Gita, alors soit on comprend, soit on comprend pas, soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord, soit on préfère oublier, mais la base, elle est là. Alors, tout ça pour revenir à dire que si quelqu'un accepte Krishna comme Dieu, la personne suprême, et l'objet de son adoration le plus important, il va suivre. Il va suivre les principes. Et aussi qu'il accepte justement de suivre les instructions du représentant de Krishna, qui est le pur dévot de Krishna. Il va suivre. Il va progresser sur le chemin de la conscience de Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK, on va continuer. Allons au chapitre 17, module 17, Goswami et Godasa. Attends, on va aller là. Voilà. Ça, c'est le dernier module du mantra, Upanishamrita mantra 1. Voilà. Après, on passe à un autre cahier, mantra 2. Virginie, voulais-tu l'aider, s'il vous plaît?
Goswami et Godasa. En conclusion, celui qui peut maîtriser ces six facteurs, la parole, le mental, la colère, la langue, l'estomac et les organes génitaux, mérite le nom de Swami ou Goswami. Swami signifie maître et Goswami, maître des sens. Celui qui reçoit l'ordre du renoncement, sannyasa, se voit dès lors attribuer le titre de Swami. Ce n'est pas pour signifier qu'il est le maître de sa famille, de sa communauté ou de sa nation, mais bien de ses propres sens. Nul ne devrait être appelé Goswami s'il n'a maîtrisé ses sens. Suivant les traces des six Goswami de Vrindavan, tout Swami ou Goswami devrait pleinement s'absorber dans le service d'amour sublime et transcendantal du Seigneur. Mais ceux qui sont esclaves de leurs sens, les Godasa, servent l'illusion ou la nature matérielle. C'est là leur seule occupation. Kalan Maharaj décrit encore le Godasa comme Adantago, ce mot signifiant celui dont les sens ne sont pas maîtrisés. Un Adantago ne peut devenir un serviteur de Krishna. Les paroles exactes de Prahlad Maharaj, telles que les rapporte le Srimad Bhagavatam, sont les suivantes. Matir na Krishne parata svato neva mito vipadya dieta griya vratanam adanta gobir vishatam tamishram puna punas charvita charvananam. Ceux qui ont décidé de poursuivre leur séjour dans l'univers matériel afin d'offrir davantage de plaisir à leurs sens n'ont aucune chance de devenir conscients de Krishna, que ce soit par leurs propres efforts, par les enseignements reçus d'autrui ou par une combinaison des deux. Leurs sens les entraînent emballés vers les plus profondes ténèbres de l'ignorance où ils s'évertuent frénétiquement à mâcher du déjà mâché. Srimad Bhagavatam 7.5.30.
Ça, c'est un verset, Srimad Bhagavatam, c'est parmi les versets, Prahlad Maharaj qui dit ça à son père. C'est son opinion par rapport à son père qui s'appelle Hiranyakashipu. Alors, il lui dit, hey, les gens comme toi, là, ils n'auront jamais la possibilité d'être conscients de Krishna. Pourquoi? Là, il explique dans le verset, comme tel. Alors, Matirna Krishna. Matirna Krishna veut dire ceux dans la conscience, dont la conscience, il n'y a pas Krishna. Alors, ils ne vont jamais avoir de succès vraiment. Voilà. Alors, Virginie, continue, s'il vous plaît. À moins qu'il y ait des questions, commentaires.
17.1.
Ouais.
En conclusion, celui qui peut maîtriser ces six facteurs, la parole, le mental, la colère, la langue, l'estomac et les organes génitaux, mérite le nom de Swami ou Goswami. Faut-il avoir le titre de Swami pour l'être? La réponse est non. Tout est question de qualification. Et sans qualification, il est vain de prétendre au titre de Swami. La qualification repose sur la pureté, l'honnêteté de la conscience individuelle en rapport avec l'usage des sens, conformément aux enseignements des Sastras, sous la direction d'un maître spirituel authentique. Cela revient à se faire le fidèle serviteur d'un pur dévot de Krishna. Pour être pur, il faut marcher sur les traces d'un pur dévot. 17.2. Swami signifie maître, et Goswami, maître des sens. Celui qui reçoit l'ordre du renoncement, sannyasa, se voit dès lors attribuer le titre de Swami. Le sannyasa, ou l'ordre du renoncement, mais du renoncement, à quoi s'agit-il? Du renoncement à la mentalité de jouir en toute indépendance dans le monde matériel? Ce renoncement sous-entend un renoncement au faux ego, lequel est l'élément conducteur de la jouissance matérielle? Pour s'affranchir du faux ego, il faut être affranchi du concept matériel de l'existence matérielle, pour plutôt être établi au niveau du Brahman. Au niveau du Brahman, l'âme est en harmonie parfaite avec l'absolu. C'est ce qu'on appelle Brahma Bhuta dans la Bhagavad Gita 18.54. Le verset se lit comme suit. Brahma Bhuta Prashanam Prashanatma Na Sochati Na Kanchyati Sama Sarveshu Bhuteshu Mad Bhaktim Labhate Param. Brahman Bhuta, ne faisant qu'un avec l'absolu, Prashana Atma, plein de joie, n'a jamais, Sochati, ne se lamente, n'a jamais, Kankshati, ne désire, Sama, d'égale disposition, Sarvechu, envers tous, Puteshu, les êtres, Mat Bhaktim, mon serviteur de dévotion, mon service de dévotion, Labhate atteint, Param transcendantal. Celui qui atteint le niveau transcendantal réalise aussitôt le Brahman suprême, et ressent une joie très profonde. Il se montre égal envers tous les êtres et jamais ne s'afflige, ni n'aspire à quoi que ce soit. Il obtient dès lors de me servir avec une dévotion pure. Teneur et portée. Atteindre le niveau du Brahman Bhutta s'identifié à l'absolu constitue pour l'impersonnaliste, le but ultime. Mais du point de vue du personnaliste, du pur dévot, il faut aller encore plus loin et s'engager sur la voie du service de dévotion pure. Il faut comprendre par là que l'être qui sert purement le Seigneur suprême avec amour et dévotion est déjà parvenu au niveau de la libération, c'est-à-dire qu'il a atteint le Brahman Bhutta, l'unité avec l'absolu. Car sans cette unité, on ne peut servir l'absolu. Au niveau absolu, il n'existe aucune distinction entre celui qui sert et celui qui est servi. La différence existe pourtant dans un sens spirituel profond. Celui qui, dans l'existence matérielle, agit pour le plaisir des sens, expérimente la souffrance, alors que l'être qui, sur le plan absolu, pratique le service de dévotion pure, ne connaît pas cette souffrance. Le dévot conscient de Krishna n'a aucun motif de lamentation et ne convoite rien. Parce que Dieu possède toute plénitude, l'être engagé dans son service, dans la conscience de Krishna, trouve à son tour la plénitude en lui-même. On pourrait le comparer à une rivière dont les eaux auraient été débarrassées de toute impureté. Parce qu'il ne pense qu'à Krishna, le pur dévot est tout naturellement heureux. Ayant trouvé la plénitude dans le service du Seigneur, il ne s'inquiète ni des pertes ni des profits matériels. Fort du savoir que tout être vivant fait partie intégrante du Seigneur suprême, dont il est par conséquent le serviteur éternel, il n'éprouve aucun désir de jouir de la matière. Il ne voit ici-bas aucun être supérieur à un autre, car supérieur et inférieur sont des concepts éphémères, et un dévot ne prend jamais en considération le va-et-vient des manifestations temporaires. Pour lui, l'or ne vaut pas plus que la pierre, et le plus grand personnage de l'univers n'a pas plus d'importance que la fourmi. Telles sont donc les caractéristiques de celui qui se trouve au niveau du Brahman Bhutta, du Brahma Bhutta, pardon, niveau qu'atteignent sans peine les purs dévots. À ce stade, l'idée de s'identifier au Brahman suprême en annihilant son individualité propre paraît infernale et l'idée de vivre sur les planètes édéniques extravagante. Les sens sont pour leur part devenus aussi inoffensifs que les crochets brisés d'un serpent. De même qu'il n'y a pas lieu de craindre un serpent dont les crochets sont brisés, il n'a pas lieu de craindre les sens une fois qu'ils sont maîtrisés. Pour celui que la matière a corrompu, le monde matériel est misérable. Mais pour le dévot, il est aussi merveilleux que Vaikuntha, le royaume spirituel. On peut atteindre ce stade par la grâce du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, qui, en notre âge, enseigna le pur service de dévotion. Tel qu'il est dit ici, telles sont donc les caractéristiques de celui qui se trouve au niveau du Brahma Bhutta, niveau qu'atteignent sans peine les purs dévots. On ne peut pas s'inventer pur dévot. On peut atteindre ce stade par la grâce du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, qui, en notre âge, enseigna le pur service de dévotion. Les dévots engagés activement dans la propagation du mouvement de Sankirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu ont toute facilité pour devenir des purs dévots de Krishna. Srila Prabhupada a donné l'exemple de la barre de fer que l'on met au feu. Plus elle reste dans le feu, plus finalement elle devient exactement comme du feu. Si vous la sortez du feu, tout ce qu'elle touchera prendra feu. Elle n'est donc pas différente du feu. Il faut, par conséquent, toujours nourrir la foi qu'en continuant dans la voie dévotionnelle, l'on atteindra la toute perfection de la conscience de Krishna. Ceci revient à rien d'autre que le pur service de dévotion, accompli par pur amour de Dieu, que l'on appelle Prema Bhakti. Des impuretés pourraient nous en faire douter, mais tel est bien le but désiré du service de dévotion. le service de dévotion est le début ainsi que le but final du service de dévotion. Il est de nature sans fin, absolue et délectable.
Jai, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? C'est tellement profond ce que Prabhupada écrit, c'est tellement, tellement élevé. Et c'est... Alors, le Prabhupada met la... il écrit tellement bien, mais il nous dit, qu'est-ce qu'il dit, c'est une en citation, là. On peut atteindre ce stade par la grâce du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, qui en notre âge enseigna le pur service de dévotion. Alors, le service de dévotion que le Seigneur Chaitanya enseigne, ça fait quoi du Seigneur Chaitanya comparé à d'autres incarnations de Krishna?
C'est la façon la plus facile d'atteindre Krishna. Comparé aux autres incarnations.
Oui, d'accord. Mais la question est, ça fait quoi du Seigneur Chaitanya?
Le maître spirituel.
Ça fait du Seigneur Chaitanya l'incarnation de Krishna la plus magnanime.
OK, oui.
Le Seigneur Chaitanya a donné ce qu'aucune autre incarnation a donné avec force détail. Et le Seigneur Chaitanya lui-même était en extase perpétuelle jour et nuit conscient de Krishna. Et quand on lit dans le Chaitanya Charitamrita les descriptions des transformations de son corps dû à l'extase profonde, dû à son amour profond pour Krishna, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse complètement l'entendement. C'est inimitable. Et c'est à se demander justement pourquoi le Seigneur Chaitanya a été si généreux. Parce qu'il aime les entités vivantes. Et il veut qu'elles soient conscientes de Krishna. Alors, Seigneur Chaitanya, c'est comme tout ce qu'il fait, c'est pour que le monde devienne conscient de Krishna. Alors, en étudiant la vie du Seigneur Chaitanya, ça ne peut pas faire autrement que de nous faire progresser dans la conscience de Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, ben, merci beaucoup pour les lectures. Ça a été très apprécié. Et puis, on va se reprendre la semaine prochaine. Voilà. Et puis, Hare Krishna.
Merci,
merci
beaucoup.
Merci beaucoup pour l'enseignement, Prabhu. C'est très apprécié aussi.
Ah, ben, ça, c'est la grâce de Prabhupada, du Seigneur Chaitanya. On est des instruments.
Ah, ben, voilà. Merci.
Hare Krishna, Hare
Krishna. Hare Krishna. Bonne soirée.
Bonne soirée. Alors, Hare,
Hare. À mercredi,
Hare
Bol.
À mercredi, dans une semaine.
Bonne semaine, alors.
Bonne semaine. Merci, Hare Bol.
Hare Bol.
Jai. Jai, Jai. Hare Bol. Voilà.